Chapitre 15. Une soirée au presbytère. Des diamants ? S'étrangla Tuppence. Son regard alla de Tommy au caillou qu'elle tenait encore dans sa main. Ces petits machins poussiéreux, ce sont des diamants ? Tommy hocha la tête. Ça commence à avoir un sens, vois-tu, ça se tient. La maison du canal, le tableau. Attends un peu qu'Ivor Smith entende parler de cette poupée. Il n'aura pas assez de compliments à te faire. En quel honneur ? Pour l'avoir aidé à cueillir une bande de gangsters notoires. Toi et ton Ivor Smith. J'imagine que c'est avec lui que tu étais fourré toute cette semaine, alors que je passais mes derniers jours de convalescence abandonnés dans ce lugubre hôpital, moi qui avais tant besoin de conversations brillantes et d'un peu de distraction. Je suis venu pratiquement tous les après-midi, aux heures de visite. Tu ne m'as pas raconté grand-chose. Ton dragon d'infirmière m'avait prévenu que je ne devais surtout pas t'énerver. Cela dit, Ivor arrive en personne après-demain et une petite soirée conviviale est prévue au presbytère. Qui sera là ? Madame Boscowan, un gros propriétaire terrien du pays, ton amie, mademoiselle Nelly Bly, le pasteur, bien sûr, toi et moi, et monsieur Ivor Smith, qui s'appelle comment, en réalité ? Autant que je sache, Ivor Smith. Tu es toujours d'un précautionneux, dit Tuppence en éclatant de rire tout à coup. Qu'est-ce qui t'amuse comme ça ? J'étais en train de penser que j'aurais bien aimé vous voir, Albert et toi, découvrant les tiroirs secrets du meuble de Tantada. Tout le mérite en revient à Albert. J'ai eu droit à un cours en bonne et due forme sur le sujet. Il a acquis cette science dans sa jeunesse chez un antiquaire. C'est incroyable que Tantada ait effectivement laissé un document secret cacheté et tout. Elle ne savait rien, en fait, mais elle était prête à croire que la crête ensoleillée abritait un individu dangereux. Je me demande si elle savait qu'il s'agissait de Mademoiselle Packard. Ça, c'est ton idée fixe. Fixe, mais excellente, si c'est vraiment une bande de criminels que nous cherchons. Un endroit comme la crête ensoleillée, respectable et bien tenu, leur serait très précieux. Surtout dirigé par une criminelle de talent. Quelqu'un de hautement qualifié, susceptible de se procurer sans problème les drogues dont elle pourrait avoir besoin, et capable d'influencer un médecin pour l'amener à accepter n'importe quel décès comme une mort naturelle. Ton petit scénario est au point, mais en vérité, si tu as commencé à soupçonner Mademoiselle Packard, c'est pour l'unique raison que ses dents ne te plaisaient pas. C'est pour mieux te manger, mon enfant, marmonna Tuppence, songeuse. Tu sais quoi, Tommy ? Et si ce tableau, celui qui représente la maison du canal, n'avait jamais appartenu à Madame Lancaster ? Mais nous savons bien qu'il lui appartenu, répliqua Tommy en ouvrant de grands yeux. Non, nous n'en savons rien. Tout ce que nous savons, c'est ce que Mademoiselle Packard nous a dit. C'est d'elle que nous tenons que Madame Lancaster en a fait cadeau à Tantada. Mais pourquoi diable ? Tommy s'arrêta net. Voilà peut-être pourquoi Madame Lancaster a été écartée du chemin, pour qu'elle ne puisse pas nous dire qu'elle n'avait pas donné à Tantada ce tableau qui ne lui appartenait pas. Je trouve ça bien tiré par les cheveux. Peut-être, quoi qu'il en soit, il a bien été peint à Sutton Chancellor. La maison qu'il représente est bien une maison de Sutton Chancellor dont nous avons toutes les raisons de penser qu'elle sert ou a servi de cache à une association criminelle, association dont M. Eccles est censé tirer les ficelles. C'est lui qui a envoyé Mme Johnson chercher Mme Lancaster. Je ne crois pas que Mme Lancaster ait jamais été à Sutton Chancellor ou dans la maison du canal, ni qu'elle ait jamais possédé un tableau la représentant. Bien qu'à la crête ensoleillée, elle ait sans doute entendu quelqu'un en parler. Madame Cacao, peut-être ? Alors elle s'est mise à bavarder et il a fallu l'écarter car elle devenait dangereuse. Mais je la retrouverai un jour, foi de Tuppence. Voilà qui ferait un beau titre. Madame Thomas Beresford à la conquête de la vérité. Vous semblez en pleine forme, Madame Tommy, déclara Ivor Smith. « Je me sens de nouveau parfaitement bien, » reconnut Tuppence. « J'ai été stupide de me laisser assommer comme ça. »« Vous mériteriez une médaille, surtout pour cette histoire de poupée. »« Comment vous vous débrouillez pour tomber sur des filons pareils, je me le demanderai toujours. »« C'est un excellent chien de chasse, » expliqua Tommy. « Une fois le nez sur une piste, la voilà partie. »« J'espère que vous n'allez pas me tenir à l'écart de votre petite soirée, » s'inquiéta Tuppence. « Sûrement pas. Vous nous avez aidé à éclaircir un certain nombre de points, et je ne peux vous dire combien nous vous en sommes reconnaissants. Notez bien que nous étions sur la piste de cette remarquable association de gangsters, responsable d'un nombre stupéfiant de cambriolages au cours des 5 ou 6 dernières années. Comme je l'ai dit à Tommy lorsqu'il est venu m'interroger à propos de M. Eccles, nous soupçonnions depuis longtemps ce très astucieux homme de loi, mais ce n'est pas quelqu'un contre qui il est facile d'accumuler des preuves. Il est bien trop prudent. Il exerce la charge de notaire, charge on ne peut plus authentique avec d'on ne peut plus authentique client. Comme je l'ai dit aussi à Tommy, cette chaîne de maisons était notre piste principale, d'honnêtes et respectables demeures, occupées par des gens honnêtes et respectables, qui y vivaient un court laps de temps, puis s'en allaient. Et maintenant, grâce à vous, Madame Tommy, à vos recherches sur les cheminées et les oiseaux morts, nous avons presque certainement trouvé l'une de ces maisons. Une maison où avait été cachée une partie du butin. C'est très intelligent ce système qu'ils ont adopté, de tout changer, bijoux ou autres, en diamants bruts. Ils les mettent sous cloche et, au moment voulu, quand les clameurs à propos du dernier cambriolage se sont tus, ils les envoient à l'étranger par avion ou à bord de bateaux de pêche. Et les Perry, sont-ils, j'espère bien que non, impliqués dans l'affaire ?
On ne peut pas l'affirmer, répondit M. Smith. Personne ne peut rien affirmer. Mais il me semble que Mme Perry sait pour le moins quelque chose ou a su quelque chose à un moment donné.
Vous voulez dire qu'elle ferait partie de cette bande de gangsters ?
Pas obligatoirement, mais il se pourrait qu'ils la tiennent, vous comprenez ?
Qu'ils la tiennent ? Comment ça ?
Eh bien, gardez ça pour vous. Je sais que vous êtes capable de tenir votre langue, mais la police locale a toujours soupçonné son mari, Amos Perry, d'être responsable de la vague de meurtres de fillettes qui a eu lieu il y a bien des années.
Il n'a pas toute sa tête. Les autorités médicales pensent qu'il pourrait aisément être sujet à de telles compulsions. La police n'a jamais eu de preuves directes, mais sa femme s'est peut-être toujours débrouillée pour lui fournir les alibis nécessaires. Dans ces conditions, voyez-vous, des gens sans scrupules pourraient avoir pris sur elle et l'avoir installée dans la maison, sachant qu'elle ne cracherait pas le morceau. Ils pourraient, par exemple, détenir une preuve convaincante contre son mari. Vous les avez rencontrés tous les deux. Quel effet vous ont-ils fait, Madame Tommy ?
Elle m'a beaucoup plu, répondit Tuppence. Elle m'a fait penser à... Eh bien, comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé qu'elle avait l'air d'une sympathique sorcière adonnée à la magie, mais à la magie blanche, pas à la magie noire.
Et lui ?
Il m'a fait peur. Pas tout le temps, mais à une ou deux reprises. Il me paraissait tout à coup énorme et terrifiant. Juste pendant une minute, je n'aurais pas su dire ce qui m'effrayait, mais le fait est que j'étais paniqué. Je devais avoir le sentiment, comme vous l'avez dit, qu'il n'avait pas toute sa tête.
Il y a un tas de gens comme ça, remarqua M. Smith, et la plupart du temps, ils ne sont pas dangereux pour deux sous. Mais on ne sait jamais, on ne peut jamais en être sûr.
Qu'allons-nous faire ce soir au presbytère ?
Poser quelques questions, voir quelques personnes, déterrer quelques-unes des informations qui nous manquent.
Est-ce que le commandant Waters sera là ? Celui qui a écrit au pasteur à propos de son enfant ?
Il semble que cette personne n'existe pas. Des fouilles ont été entreprises, des excavations ont été pratiquées au cimetière. Il y avait bien un cercueil à l'endroit d'où la vieille pierre tombale a été déplacée, un cercueil d'enfant doublé de plomb, mais il était plein d'objets de valeur, or et bijoux, provenant d'un cambriolage effectué dans les environs de Saint-Alban. La lettre au pasteur avait pour but de se renseigner sur ce que cette tombe était devenue. La profanation des lieux par les voyous du pays avait tout chamboulé.